Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, cette chanson c'était Au long de la route de Zaz. Elle, c'est une chanteuse pas chrétienne du monde séculier. Mais les paroles de cette chanson ont beaucoup en relation avec l'histoire qu'on est en train d'aborder ces trois dimanches. Et dans le refrain, elle dit choisissant notre destin sans plus aucun doute. Faire un choix qui va déterminer le futur sans avoir des doutes. C'est pas une petite affaire de faire ça. Il y a un choix et être sûr que c'est le bon choix pour le reste de sa vie. Pour se rappeler d'où on s'est arrêté dimanche passé, c'est l'histoire de Daniel et de ses trois amis. Ils sont très jeunes, peut-être entre 14 et 15 ans. Ils sont beaux, ils sont intelligents, mais ils sont forcés à quitter, ils ont été forcés à quitter leur pays à cause d'une invasion étrangère dans le pays d'Israël. Donc ils perdent tout ce qu'ils avaient, leur maison, leur bétail, leur famille. Mais en exil, une opportunité s'ouvre, c'est celle de faire une formation de 3 ans pour devenir employé royal dans le grand règne de Babylone. Donc employé dans la cour du roi. Daniel et ses amis avaient fait un engagement avec Dieu, ils ont décidé de maintenir cet engagement même dans une terre étrangère. Et bien avant les 3 ans, ils sont appelés pour faire un examen. Un examen devant le roi. Et peut-être comme vous, quand il y avait des examens pendant l'époque de l'apprentissage, ou pendant vos études à l'école, ou à l'université, pour ceux qui ont fait l'université, il y avait pour eux, et puis il y a pour nous, un certain trac. Pour eux, c'était « Est-ce que je vais être admis au service du roi ?» Parce qu'il y avait plusieurs jeunes qui avaient fait cette formation, et puis il y avait déjà cet examen au milieu de la formation à peu près. Ils ont dû penser, si je ne suis pas admis, où est-ce qu'ils vont m'envoyer? Si je ne suis pas admis, peut-être que le roi, il va dire, non, je ne te veux pas, même pas besoin de continuer ta formation. Tu peux aller, je ne sais pas où c'est qu'ils pourraient être envoyés, ces jeunes, s'ils ne réussissaient pas cet examen. C'était beaucoup d'incertitudes dans un pays étranger, et ça faisait sûrement peur. Cet examen qu'ils avaient. Le texte, il dit comme ça. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar et le roi discuta avec eux. Peut-être c'est là où il envoie Daniel à la fosse aux lions et puis ses amis à la fournaise ardente. Hein? Non, c'est pas exactement à ce moment-là. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azariah. Et ils furent donc admis au service du roi. Imagine la joie de ces jeunes gens. On a réussi l'examen. Avant même d'avoir terminé la formation, ils sont admis au service du roi. Je me rappelle quand Carissa a réussi son permis de conduire, la première fois qu'elle a fait l'examen, j'étais sûr qu'elle allait réussir et sa professeure aussi. La prof avait dit qu'elle était prête. J'avais déjà beaucoup roulé avec elle. J'avais déjà envie de dormir à côté pendant qu'elle conduisait parce qu'il n'y avait plus rien à corriger. J'avais déjà planifié tout ce qu'on allait faire pour fêter cette réussite. Et quand elle arrive à la maison, je me suis senti très triste de l'avoir aussi triste comme elle était. Je connais des gens qui ont fait 4-5 fois cet examen pour réussir. C'est très démoralisant, c'est très triste, c'est très décourageant. Chaque fois on revient et puis on n'a pas réussi. Vraiment, la deuxième fois qu'elle a fait, qu'elle a passé cet examen, c'était pas vraiment une bonne date. C'était juste après notre consécration. On avait eu une semaine d'examen à la faculté Jean Calvin. C'était le dernier jour de cours au centre de formation. C'était la veille du déménagement de nos affaires à Orbe. Et 3 jours avant qu'on parte au Brésil. Donc c'était trop de choses en même temps pour un examen. C'était vraiment pas un bon moment. Et j'étais allé la chercher. Cette fois, j'avais pas préparé toute la chose. J'étais préparé au pire déjà. Et puis elle entre dans la voiture sans rien dire. Et puis j'ai dit, ça y est. C'est ça. Et après, d'un coup, elle crie, j'ai Et quel soulagement, c'est qui dans les bras, quelle joie, quelle bénédiction de d'abord pouvoir partir en paix en vacances, pouvoir partir en paix pour le déménagement qui est venu à Or. Et puis quelle joie de pouvoir commencer à Or avec les deux, avec le Pierre-Yves, c'est un privilège, hein. C'était très utile pour le ministère. On est les deux beaucoup plus libres, c'est un cadeau de Dieu. Donc pour Daniel et ses amis, j'imagine qu'ils ont attendu sortir de la salle du roi et puis ensuite se sont pris dans les bras, se sentant soulagés et joyeux avec ce résultat. Donc ils sont admis au service du roi et c'est une belle porte qui s'ouvre pour eux. C'est une belle porte dans leur chambre, de nouveaux habits, une position privilégiée dans leur royaume. Ils sont considérés comme un des sages de Babylone, le plus grand empire de l'époque. La puissance du monde, et ils sont un des sages conseillers du roi. Et le grand défi ici, c'est se dire, j'ai réussi, donc j'ai les capacités, donc je peux. Et on ne dit pas à haute voix, mais au fond là, du cœur, par nos attitudes, et le complément de cette phrase est « par moi-même ». J'ai réussi, donc j'ai les capacités, donc je peux par moi-même. Je peux, par exemple, prendre des décisions par moi-même. Je peux choisir mon destin sans plus aucun doute, comme a dit Zaz, par moi-même. J'ai les capacités, j'ai réussi, donc je peux. Et c'était ça, la tentation avec cette opportunité. Et le nom de cette porte est la suivante. J'ai un peu mal mesuré ici. Ma propre sagesse est suffisante. Donc, je peux prendre des décisions basées sur ma propre sagesse. Parce que j'ai réussi et j'ai des capacités. Et les quatre jeunes ont été mis à l'épreuve dans ce domaine-là. Le texte continue comme ça. La deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves. Il eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Donc le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui racontent son rêve. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen. Roi, puisses-tu vivre toujours? Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit au prêtre chaldéen, voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. C'est comme si je fixe un rendez-vous avec le psychanalyste ou un psychothérapeute et je dis que je veux l'explication de rêve que j'ai eu, mais je ne vais pas dire quel est le rêve. C'est à lui de découvrir quel est le rêve. Sincèrement, ça semble une excuse pour pouvoir couper des têtes. C'est classique des grands tyrans. Hérode, Hitler, Steve Jobs. Ils avaient tout d'un coup une idée folle en tête et puis si la personne ne pouvait pas l'accomplir, elle était virée ou alors fusillée. Le roi continue. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et des grands honneurs, comme si l'être prince allait aider à la tâche. C'est pourquoi révélez-moi le rêve et son explication. Ils répondirent une deuxième fois. Que le roi raconte le rêve à ses serviteurs et nous en révélerons l'explication. Et le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous cherchez à gagner du temps parce que vous voyez que ma décision est prise. Si donc vous ne faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. Vous vous êtes concertés pour me débiter des mensonges et des faussetés en attendant que les circonstances changent. C'est pourquoi dites-moi quel était le rêve et je saurai que vous êtes vraiment capable de m'en donner une explication. Ça chauffe pour les sages de Babylone. Les prêtres chaldéens essaient encore une fois et ils répondent au roi. Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. Termine comme ça la phrase. Les dieux n'habitent pas parmi les hommes. D'ici quelques jours, on va commencer à se rappeler la venue de Jésus sur la terre. C'est quelque chose d'absolument bouleversant. Dans les grandes religions du monde, on doit tous faire de grands efforts pour découvrir qui est Dieu. On doit se battre contre notre corps, contre notre volonté, pour connaître qui est Dieu. En Jésus, c'est Dieu lui-même qui vient habiter parmi les hommes. Il vient montrer ce qu'il pense, il vient montrer comment il agit, il vient montrer quelle est sa priorité pour la vie. Donc si on change notre manière de penser et d'agir, c'est pas dans le but de connaître Dieu, c'est pas dans le but d'atteindre une connaissance cachée qui est inaccessible aux autres. C'est le contraire. C'est parce qu'il s'est révélé, parce qu'on l'a connu. On est tellement impacté par son amour et son exemple qu'on veut se conformer à sa vie, à son amour, à son exemple, pour lui faire plaisir. C'est vraiment le contraire. Lui, il s'est révélé d'abord, il s'est fait connaître d'abord, et nous, en le connaissant, on change après d'attitude, parce qu'il a déjà fait tout le boulot. Donc, je ne change pas de vie pour atteindre les dieux, mais d'abord, j'apprends à connaître Jésus, et après, je change de vie. Et ça, c'est la clé, par exemple, quand on n'arrive pas à vaincre des péchés récurrents, par exemple. Ce n'est pas d'essayer plus fort, mais de connaître plus Jésus. Ça va impacter notre vie. Parce que plus on le connaît, plus on a envie de vivre une vie qui lui fait plaisir, et plus on a la force de le faire. Plus on le connaît, plus on a la force de se conformer à sa volonté. Donc on a eu la réponse des sages. Cela mit le roi en colère. Il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Comme j'ai dit, le tyran, hein. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé, et l'on recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Daniel s'adressa alors avec bon sens et tact à Arjok, le responsable des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il fallait vraiment du tact, parce que tu vas discuter avec le gars qui est en train de venir pour te prendre et t'amener à un lieu où après tu seras exécuté. Prenant la parole, il dit à Arjon, l'officier du roi, « Pourquoi le décret du roi est-il si sévère ?» Arjon exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Avec ça, il paraît que Daniel a pris cette porte. Sa sagesse est suffisante. Ce qu'il dit... Je vais parler au roi et je vais lui donner cette explication qu'il demande. Donc, il croit sûrement que sa sagesse est suffisante. Il est en train d'entrer par cette porte-là. Ça me rappelle la petite école de langue où je travaillais au Brésil. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une petite école de langue un peu familiale. Et ils avaient toujours des problèmes financiers parce qu'ils géraient mal leur entreprise. C'est une mauvaise gestion financière. Par contre, la partie pédagogique était superbe de cette école, et le bâtiment aussi. Un jour, j'ai eu la brillante idée que si je l'administrais, elle pouvait sortir du rouge. J'ai fait la folie de dire qu'en plus de prof, je voulais gérer les comptes de l'entreprise. Et plus insensé encore, ils ont dit oui. Non, mais je n'ai pas été projeté pour ça. C'est de la pure folie de croire qu'on peut tout faire et on peut sauver le monde. Clarissa m'a dit clairement, Thierry, tu fais une grosse bêtise là. Hein? Elle était angoissée pour moi et avec raison. À peu près 5 jours après, j'ai dit que je ne voulais plus, je veux prendre mon poste de prof à 100%. Croyez-moi, heureusement que vous avez Daniel et Clarissa pour gérer ce poste dans l'administration et les finances. Mais là, je croyais que ma propre sagesse était suffisante. Je suis enfant de Dieu, comme si je peux tout, ma propre sagesse est suffisante. Mais Daniel, en fait, non. Il n'a pas commis la même erreur que moi. Parce qu'il a suivi deux étapes très simples. Ferme cette porte. Le texte dit, Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Pour lutter contre la tentation de « je peux le faire par moi-même, ma sagesse est suffisante », il prend deux attitudes très simples. Premier, il en parle à des amis qui aiment aussi le Seigneur. Et deuxièmement, il leur demande de chercher le Seigneur avec lui. Donc c'est remplacer la porte de ma propre sagesse est suffisante par ça. J'ai besoin de rechercher avec d'autres la sagesse de Dieu. Et je veux vraiment souligner avec d'autres la sagesse de Dieu. J'ai besoin de rechercher avec d'autres la sagesse de Dieu. Comme ça qu'il remplace la porte de ma propre sagesse est suffisante. Et le texte continue. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse l'établi des rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Il reconnaît dans sa prière que c'est Dieu qui intervient dans l'histoire, que c'est de lui qui vient la sagesse. S'il a réussi, c'est grâce à lui. S'il a des capacités, c'est parce que Dieu lui donne. S'il veut prendre des décisions, c'est seulement parce que Dieu donne une direction claire sur ce qu'il doit décider. Et sa prière continue. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière réside auprès de lui. Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force, et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Et pour terminer l'histoire, Daniel alla trouver Arjok, celui que le roi avait chargé de faire mourir les sages de Babylone. Il alla lui dire, ne fais pas mourir les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je lui révélerai l'explication. Arjok conduisit donc Daniel devant le roi et lui dit, j'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui fera connaître l'explication au roi. Prenant la parole, le roi dit à Daniel, qu'on appelait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication? Daniel répondit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la vie. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants. Mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Dans son témoignage devant le roi, il dit, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu. De cette manière, on peut être en accord avec Zaz. Et il dit, dans le refrain de sa chanson, « Prenons-nous la main le long de la route, donc pas seul, mais avec d'autres, choisissant notre destin sans plus aucun doute, mais que la direction que Dieu donne, c'est vraiment possible, prendre une direction claire, être sûr de ses choix. » Et puis il dit, « J'ai foi, et ce n'est rien qu'une question d'écoute. » Pour Zaz, la foi est une question d'écoute. Pour Daniel, prendre des décisions avec de la sagesse, c'était aussi une question d'écoute. J'ai dit que c'est fort probable qu'en étant de famille royale, Daniel soit avait écouté les proverbes et les a appris par cœur, c'était une tradition des Juifs, soit il a lu vraiment le livre des proverbes, qu'il avait accès. Pour cette situation, peut-être, il avait ce proverbe-là en tête. Tu peux m'aider jusqu'à moi. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. C'est vrai que quand on veut connaître sa volonté et on la cherche avec d'autres personnes, il nous guide dans le bon chemin. C'est valable pour le choix d'une formation, c'est valable pour une opportunité d'emploi qui s'ouvre, c'est valable pour savoir le moment de commencer une nouvelle relation amoureuse, c'est valable pour savoir avec qui je devrais fréquenter. C'est valable pour une conversation difficile qu'on a avec quelqu'un, c'est valable pour des moments de grande tristesse, des moments où on se sent perdu dans la vie. Et Dieu veut nous guider dans le droit chemin, si on ne se repose pas sur notre propre intelligence. Je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois dans ma vie, dans tous ces domaines que j'ai cités. C'est valable aussi pour toi. Et ma question, c'est quelle opportunité est en train de s'ouvrir pour toi en ce moment de ta vie? Et comment est-ce que tu vas prendre cette décision? Est-ce que c'est en se basant sur ta propre sagesse? Parce que c'est en recherchant avec d'autres personnes la volonté de Dieu. Dieu veut vraiment te guider. Il veut que tu puisses faire un choix avec la certitude que c'est le bon choix à faire. Il n'oublie pas dans le processus d'autres personnes qui t'aiment et qui veulent rechercher Dieu avec toi. Oui, c'est possible de choisir notre destin avec cette certitude qui vient de Dieu, avec cette sagesse qui vient de Dieu, pour pouvoir avancer sans crainte. Je vais prier.